Nicolas Metzdorf, invité du magazine Transparence. C'était ce midi. Le député de la première circonscription a notamment confié ses attentes quant à la visite la semaine prochaine de la ministre des Outre-mer sur le territoire. Au chapitre des faits divers, deux incendies volontaires la nuit dernière à Païta. Un premier a été signalé devant le poste de police municipal, un autre devant la boulangerie Le Mitron. Le Nouméa Women's Forum s'est achevé ce matin. Trois jours de rencontres et d'échanges autour de l'entrepreneuriat au féminin. L'ouverture du festival de cinéma Récif, au programme des courts et des longs métrages venant de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. En fin de journal, nous ferons le point sur l'agenda sport du week-end. Nous évoquerons notamment le coup d'envoi d'un grand tournoi de basket 3 contre 3. Ce sera sur les Kéferis à Nouméa. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Conseil constitutionnel a validé le report des élections provinciales qui doivent se tenir au plus tard le 28 juin 2026. Il valide la loi organique, mais il précise que ce troisième report devra être le dernier, Jean-François Bodin.
La loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution, décide le Conseil constitutionnel. Il valide la loi organique qui a été définitivement adoptée par le Parlement le 29 octobre dernier, mais il précise dans son communiqué que ce nouveau report suit deux précédents reports qui avaient été opérés par deux lois organiques du 15 avril 2024 et du 15 novembre 2024. Il relève que si ce troisième report, pour une durée maximale de 7 mois, a pour effet de porter à 25 mois au plus la durée cumulée du report des élections, il revêt, de même que la prorogation des mandats qui l'accompagnent, un caractère exceptionnel et transitoire. En reportant de nouveau le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de la province de la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique a entendu tenir compte de la poursuite des discussions entre les partenaires politiques et de l'accord de Nouméa pour parvenir à la conclusion d'un accord qui soit consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ajoute le Conseil, qui précise que cet accord inclut une modification des règles de composition du corps électoral spécial qui aurait vocation à s'appliquer à ces élections. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances particulières qui ont conduit à l'adoption de la loi, le choix fait par le législateur organique n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif qu'il s'est fixé. Le Conseil précise enfin que la durée totale de ce report, qui ne saurait être étendue au-delà, ne méconnaît pas le principe constitutionnel selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.
Il faut avancer, c'est la conviction du député Nicolas Metzdorf, qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Alors que la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, est attendue lundi en Nouvelle-Calédonie, il estime qu'elle doit apporter des réponses précises et que son déplacement est décisif.
Le député de la première circonscription est revenu sur la récente séquence parlementaire qui a vu l'adoption du report des élections provinciales au terme d'un véritable combat parlementaire. Il explique qu'il faut faire beaucoup de pédagogie à l'Assemblée nationale parce que la représentation nationale est traumatisée, dit-il, par les violences insurrectionnelles du 13 mai et parce que la situation calédonienne est complexe. Les parlementaires ont notamment des difficultés à intégrer les divisions des indépendantistes et à faire la distinction entre le FLNKS et l'UNIPALICA.
C'est normal parce que les deux parlementaires indépendantistes qui sont à Paris sont deux parlementaires de la tendance FLNKS-UC et c'est pas deux parlementaires de l'UNIPALICA. Donc moi je renvoie aussi aux grands électeurs pour les sénatoriales et aux Calédoniens pour la seconde circonscription de M. Tchibaou de dire que entre des indépendantistes radicaux et des indépendantistes de l'UNI, ça fait aussi bouger les choses d'une façon ou d'une autre à l'Assemblée nationale. Si moi j'avais eu avec moi à l'Assemblée nationale un député indépendantiste de l'UNIPALICA, il aurait très certainement pas dit les mêmes choses que M. Tchibaou et très certainement que la majorité aurait été plus large. Donc il y a aussi le reflet du choix de la démocratie calédonienne quelque part.
Après l'adoption de la loi organique qui reporte les provinciales, la Calédonie est un peu dans un no man's land, constate Nicolas Metzdorf. Le FLNKS refuse pour l'instant de revenir autour de la table, mais il ne peut pas prendre tout le monde en otage, déclare le député de la première circonscription, qui rappelle que tous les autres groupes politiques soutiennent l'accord de Bougival. Et si le FLNKS accepte de reprendre les discussions, les concessions ne peuvent pas être unilatérales.
Nous, on a été très loin. Enfin, je veux bien rechercher l'apaisement, le consensus et une solution pour la Nouvelle-Calédonie. On a tous besoin. Mais pardon, nous, on est quand même un peu dénudés, là. C'est-à-dire qu'on a lâché le mot État. On devient un État. On a lâché le concept de double nationalité en contrepartie de l'ouverture du corps électoral. On a une loi fondamentale. On a des transferts de compétences régaliennes qui restent possibles, même avec un système au Congrès qui est très sophistiqué. Donc, bon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions de symboles? Est-ce qu'il y a des questions de reconnaissance mutuelle historique? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut le FLNKS, parce que, vous savez, c'est ça la difficulté du FLNKS aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Moi, ça fait 3 ans que je fais des réunions avec le FLNKS. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils nous parlent de décolonisation. Bon, ok, mais c'est quoi? Enfin, est-ce que la Calédonie est encore colonisée? Je crois pas. Ils nous parlent d'émancipation. En fait, ils parlent de termes très sophistiqués, très philosophiques, mais il n'y a pas de demande concrète.
Il ne faut pas céder à la violence ni aux menaces, déclare encore Nicolas Metzdorf. Il est persuadé qu'il faut avancer et que le projet de loi constitutionnelle doit être présenté au Congrès de Versailles.
Soit, ici, les discussions progressent. Le FLNKS revient à la table des négociations, on négocie. Le PJLC, donc le projet de loi constitutionnelle, est modifié et donc ça prend du temps. Et donc, on attend un peu avant de le mettre dans les tuyaux définitivement. Soit le FLNKS ne vient pas. Et là, notre position, nous, elle est claire au niveau des loyalistes, c'est on met le PJLC dans les tuyaux. On ne va pas attendre 150 ans. Il y a un moment donné, il faut qu'on avance. Donc, un dernier tour. J'insiste bien sur le dernier tour. Hein. Un dernier tour pour tenter de remettre tout le monde autour de la table. Si c'est une fin de non-recevoir, il faudra avancer quoi qu'il arrive. Et même s'il y a des menaces de violence, il faut avancer.
Dans ce contexte, le député de la première circonscription attend de la ministre des Outre-mer qu'elle obtienne une réponse claire du FLNKS sur sa volonté de reprendre ou non les discussions.
Je pense sincèrement que le voyage de la ministre doit servir à ça. La ministre repart à Paris en informant Sébastien Lecornu, Premier ministre, et Emmanuel Macron, Président de la République, si oui ou non il y a une possibilité de continuer les discussions avec le FLNKS, ou si c'est foutu et qu'il faut avancer.
Donc cette visite est quand même assez décisive.
Pour moi, elle est décisive.
Nicolas Metzdorf attend aussi des réponses claires de la part de la ministre des Outre-mer sur l'aide de l'État pour redresser la situation économique de la Nouvelle-Calédonie.
Plus le temps passe, plus c'est difficile de survivre s'il n'y a pas de reconstruction politique de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, tant qu'on est dans ce no man's land, dans cette incertitude, la situation de nos entreprises va continuer de se dégrader. Et c'est là où nous, on a un rôle particulier, la classe politique calédonienne et en particulier les parlementaires, c'est d'informer suffisamment l'État pour dire s'il n'y a pas de reconstruction institutionnelle, il va falloir que l'État débourse de l'argent pour maintenir à flot le niveau de vie des Calédoniens qui baisse drastiquement. Mais là où l'argument que nous utilisons auprès de la classe politique parisienne fonctionne, c'est-à-dire on leur dit, si le FLNKS ne revient pas autour de la table, il faut que vous avanciez quand même. Pourquoi? Parce que ça va vous coûter extrêmement cher si vous ne le faites pas. C'est une réalité. Parce que si on n'avance pas institutionnellement, la situation économique se dégrade, la situation sociale se dégrade, on va être de plus en plus dépendant de l'État, et c'est plus 1 milliard d'euros qu'il va falloir nous prêter, mais 2, 3, 4, 5.
Et à 48 heures de l'arrivée de Naïma Moutchou, le député de la première circonscription précise clairement ce qu'il attend de la visite de la ministre des Outre-mer.
Ce que j'espère de Naïma Moutchou, c'est qu'elle soit, et elle en est capable, elle ne soit pas dans la langue de bois. Il faut qu'elle dise les choses. Je pense qu'on en est arrivé à un point en Nouvelle-Calédonie où ça ne sert à rien d'essayer de nous faire plaisir ou pas plaisir. Je crois qu'il faut qu'elle dise les choses. Nous, on va lui dire les choses aussi. On a besoin maintenant de décision, de prise de décision. Moi, je voudrais qu'à la fin de ce séjour, une décision soit actée sur le calendrier de la mise en œuvre de Bougival. Si Naïma Moutchou repart et qu'il n'y a pas d'annonce économique de soutien et qu'il n'y a pas d'annonce de calendrier de mise en œuvre de Bougival, sa venue sera un échec.
Nicolas Metzdorf s'exprime également sur la situation nationale et son instabilité politique. Une interview qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Le FLNKS reste ouvert au dialogue et se déclare prêt à rencontrer la ministre des Outre-mer, dont la visite en Calédonie débutera lundi prochain. C'est ce qu'indique dans un communiqué Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC, qui assure l'aide animation du bureau politique du FLNKS.
Madame Moutchou a déclaré que rien ne se fera sans le FLNKS, écrit Dominique Fauchy. Nous attendons désormais que ces paroles se traduisent par des actes concrets, marquant une rupture avec les pratiques du passé. Seul un dialogue sincère fondé sur le respect mutuel et une méthode juste permettra de construire un avenir partagé et apaisé, peut-on lire dans ce communiqué. Le BP du FLNKS réagit aussi à la décision du Conseil constitutionnel qui valide le report des élections provinciales. Elle ferme la porte à une révision constitutionnelle qui ne serait envisageable qu'à la condition condition qu'un consensus soit acté. Pour le FLNKS, conclut ce communiqué, les discussions à venir doivent conduire à l'aboutissement de l'accord de Nouméa, à savoir mener la Nouvelle-Calédonie sur la voie de la décolonisation et de la souveraineté.
Dans l'actualité politique, toujours, le Palika réunit à partir d'aujourd'hui, et ce pour 3 jours, son 50e congrès à Bouraille sur le site de Téné.
Oui, les différentes délégations sont en train de rejoindre le site et c'est demain à 9h que sera prononcé le discours d'ouverture de ce 50e congrès du Palika. Pour Judicaël Séléphène, l'un des porte-parole du parti, c'est un congrès qui marque un tournant dans l'actualité politique du pays et une étape pour l'accession à l'indépendance. Il indique que 3 grands défis ont été identifiés.
Premier défi, c'est la reconstruction du pays et la prise en charge de la crise sur un pas de temps de 8 mois, donc à court terme. Et le parti devra dire comment il envisage de traiter la sortie de crise et la prise en charge de la crise sur tous les niveaux, institutionnels et politiques. Le deuxième sujet, c'est la poursuite des discussions sur l'avenir. Donc, on est revenu de Paris en juillet dernier avec un compromis dit accord de Bougival. Donc, le parti devra dire comment il voit ce dispositif comme un moyen d'accéder à l'indépendance. Il va falloir qu'il le précise et poursuivre son action de communication et d'appropriation des Calédoniens à ce compromis politique. Et enfin, cette stratégie qui va être définie, le parti devra dire comment il envisage de s'organiser. Donc ça, c'est le portage politique en interne au sein du parti, au sein de l'organisation du FLNKS et aussi de l'Union nationale pour l'indépendance.
Il s'agira au cours de ce congrès de décliner les grandes orientations politiques en termes de stratégie pour les 8 mois qui nous séparent des provinciales et de définir comment le parti séquence la mise en œuvre de l'accord politique de Bougival. À l'occasion de ce 50e congrès, le Palika va aussi préparer sa rencontre avec la ministre des Outre-mer.
Ça fait partie du deuxième point, c'est la poursuite des discussions et la mise en œuvre de l'accord. Donc, au regard de ce qui s'est passé depuis le 2 juillet, le parti devra dire comment il envisage la suite, les discussions avec le ministre, qu'est-ce qu'il en attend de cette rencontre avec la ministre, quelles sont les positions que le parti souhaite porter au sein de la délégation de l'Union nationale pour l'indépendance dans le cadre de ses rencontres avec le gouvernement central.
Et puis, autre question à aborder lors de ce congrès de Téné, le positionnement du Palika vis-à-vis du FLNKS.
Ça fait partie d'un sujet, donc ça relève de l'organisation et du partage politique. Donc cette stratégie qui va être déclinée, en tout cas dans ses grandes orientations, le parti devra dire comment il mobilise ses outils. Donc un des outils pour lesquels il s'est toujours mobilisé, c'est le FLNKS. Aujourd'hui, on connaît la situation. Donc il va falloir dire quelle est la situation du parti vis-à-vis du FLNKS. Ça fait partie des sujets, oui.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Les travaux du 50e congrès du Palika débuteront donc demain matin. Ils se clôtureront dimanche.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Dans quel domaine attendez-vous surtout des réponses de la part de la ministre des Outre-mer qui arrive donc lundi prochain? Si c'est d'abord dans le domaine politique et institutionnel, vous tapez 1. Si c'est d'abord dans le domaine économique et social, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, et vous êtes dubitatif, 50% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS, pensent que la reprise des services de cantine à partir du 12 novembre signifie la fin du conflit entre la DEC et les collectivités. Ils sont aussi 50% à penser que ce n'est pas le cas. Au chapitre des faits divers, maintenant 2 incendies volontaires la nuit dernière à Païta. Sur ses réseaux sociaux, la commune signale qu'elle a été le théâtre d'actes de vandalisme. Un départ de feu a été signalé devant la boulangerie Le Mitron et un autre devant le poste de police municipale. La ville de Païta condamne fermement ces agissements irresponsables. André Guéry, adjoint au maire de Païta, en charge notamment de la sécurité.
Ah ben on condamne bien sûr, et puis surtout, j'espère en tout cas que ce sont que des actes de délinquance. Mais effectivement, ce sont des actes que l'on condamne. Le portillon d'entrée dans l'enceinte de la police municipale, effectivement, il y a des gens qui ont réuni des déchets verts et qui ont mis le feu à ces déchets, et ça a brûlé effectivement, sans trop de gros risques, mais ça a brûlé le portillon de la police municipale. Il n'y a pas de gros dégâts, c'est juste la tôle qui a brûlé et qui a un peu fondu. Les agents de surveillance de la province sud qui passaient dans le coin s'en sont aperçus et ont tout de suite lancé l'alerte. Donc, on ne peut que saluer et remercier cette initiative de la part de ces agents.
Il y a eu ce départ de feu-là, il y en a eu un autre devant la boulangerie.
Il y en a eu effectivement un autre devant la boulangerie avec un feu dans une poubelle. On va vérifier toutes nos caméras dans les alentours, déjà pour voir si on peut y voir quelque chose.
Ce matin, une plainte a été déposée par la ville de Païta et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces actes de vandalisme. Également, un incident hier aux abords de l'école publique Fernande Le Riche à Nouméa. Alors que les élèves étaient en pause du midi, de jeunes individus auraient tiré avec une arme factice sur les élèves. Un événement traumatisant que déplore le vice-président de l'APE, Aurélien Lalanne.
Selon les remontées des élèves même, hein, on n'est pas au courant officiellement, donc ça serait deux personnes en moto qui auraient tiré avec des balles à gel là, et qui auraient touché des enfants pendant le temps de la pause du midi. Donc évidemment, les enfants sont un peu traumatisés, quoi, hein. Pas de blessés, alors c'est pas l'affaire du siècle, mais nous en tant que parents, on est vigilants sur tout ça, parce que le geste, vous imaginez le geste tiré sur des enfants dans une école. L'école c'est un sanctuaire, on n'y touche pas, donc on pense que c'est un acte isolé, il ne faut pas donner trop d'importance non plus pour pas trop dramatiser, mais on reste vigilant. S'il faut rester aux abords pour surveiller, on y sera.
Les services de police n'ont pas été appelés pour cet incident, mais une enquête pourrait être ouverte. 18h passées de 2 minutes, première pause avant de voir l'actualité économique sur le territoire et notamment ce communiqué du MEDEF-NC. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
C'est la fête chez Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnotage et de prix promo tout le mois. Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
Info soir, Léana Colombo.
Et dans l'actualité économique, le MEDEF-NC réagit aux propos relayés par le magazine Made In et attribué à la FINC des propos remettant en cause la viabilité de la SLN, Léo Fichou.
Des propos qui, estime le syndicat patronal, présente, et je cite, avec un enthousiasme naïf, son démantèlement comme une filière d'avenir, au mépris des milliers d'emplois directs et indirects dépendants de son activité. Le MEDEF, qui dans un communiqué rappelle que, et je cite encore, dans la situation économique actuelle, la SLN est un acteur industriel structurant, porteur de savoir-faire, d'emplois qualifiés et contributeur majeur à la survie des comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie, qu'aucun scénario de démantèlement ne saurait remplacer. Il est dangereux, écrit encore le MEDEF, de présenter la fermeture d'usines comme inévitable, voire comme une solution d'avenir. Une telle rhétorique fragilise la confiance, décourage les investissements, sans considération pour les milliers de salariés pleinement investis dans la survie de leur outil de travail. Le MEDEF Nouvelle-Calédonie, qui pour conclure ce communiqué, réaffirme son plein soutien à la SLN et à l'ensemble des salariés et des sous-traitants de la filière, convaincu qu'une stratégie industrielle ambitieuse fondée sur la transition énergétique et la compétitivité reste non seulement possible, mais indispensable à l'avenir économique du pays. Fin de citation.
Comment relever le niveau d'éducation des zones éloignées géographiquement? C'est la problématique à laquelle tentait de répondre le vice-rectorat ce matin en signant une convention avec les représentants de l'État et les collectivités territoriales. La commune de Wailou devient donc officiellement un territoire éducatif rural, Charlotte Coulson.
C'est un dispositif qui a fait ses preuves en métropole. Il vise à réduire les inégalités territoriales liées à l'éducation. En Calédonie, la côte Est en province Nord est particulièrement concernée, notamment la commune de Wailou. La zone a un des indices d'éloignement les plus élevés du territoire et le niveau scolaire des jeunes y est très faible. Un diagnostic de territoire a justement été réalisé en 2023 et pointe plusieurs facteurs que détaille Pascal Sawa, le maire de Wailou.
Les résultats des enfants scolarisés sur la commune est en deçà de la moyenne de la Nouvelle-Calédonie. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a effectivement les parents qui se désengagent. Ce n'est pas propre à la commune de Wailou, c'est un phénomène plutôt global. Hein. Ensuite, il y a aussi au niveau des enseignants. Au niveau du primaire, c'est plutôt fixe. Au niveau du collège, il y a beaucoup de turnover. Donc ça, c'est un sujet aussi qui nous appartient pour faire en sorte que les conditions d'accueil du personnel enseignant soient à la hauteur. Il y a aussi l'alignement géographique par rapport à la capitale. Ça ressort du diagnostic, une histoire de sécurité, de services et d'accès à la propriété.
En définissant ce secteur comme un territoire éducatif rural, les services de l'État et les collectivités territoriales s'engagent donc à coopérer et à concentrer leurs efforts pour accompagner les enfants dès leur plus jeune âge dans leur parcours scolaire, et ce jusqu'à leur entrée dans la vie professionnelle. La convention a été signée notamment par le haut-commissaire, la vice-présidente du gouvernement, le directeur de la DAFE, le maire de Wailou, le représentant des coutumiers et bien sûr par le vice-recteur Didier Vindatich.
Il y a un axe sur les performances, il y a un axe sur l'amélioration de la santé. Effectivement, on a insisté sur la coéducation. Ça veut dire qu'en concentrant des moyens sur un périmètre donné, on sera plus efficace. Les services de l'État vont mieux coopérer entre eux, mais aussi il faut bien voir que tous les services de l'État vont mieux coopérer avec les autres partenaires locaux. Il y a une problématique scolaire, mais pas que. L'école ne peut pas résoudre tous les sujets tout seul. Elle les résout forcément en coopération avec d'autres acteurs qui, en matière de prise en charge de la jeunesse, ont des responsabilités.
Le dispositif serait effectif à la prochaine rentrée scolaire. Il concernera au total près de 600 élèves répartis dans les 7 établissements scolaires de Wailou, 5 écoles publiques et privées, un collège et un lycée.
Clap de fin pour le Nouméa Women's Forum. Durant 3 jours, plus de 200 participantes et participants se sont réunis autour de causeries, tables rondes et masterclass pour échanger sur l'entrepreneuriat au féminin, mais aussi les défis que doivent relever les femmes au quotidien, Charlotte Coulson.
Et pour cette 5e édition, le Pacifique et la jeunesse étaient de nouveau au cœur de l'événement. Après une conférence, cette dernière matinée a été l'occasion d'enrichir le Livre Blanc, un document qui recense, depuis la création du forum, les propositions et les actions prioritaires à mener pour améliorer la place des femmes dans le tissu économique calédonien. Et depuis le premier Nouméa Women's Forum, du chemin a été parcouru, constate Naya Wateu, la fondatrice de l'événement.
Je considère qu'au regard du bilan qui a été proposé, on mesure le chemin parcouru, tant sur l'efficacité des dispositifs, parce que c'était aussi une volonté forte de pouvoir faire en sorte qu'on soit sur du concret. Donc des dispositifs à l'échelle de la province qu'on a changé, adapté, modifié, qu'on a supprimé quand ça fonctionnait plus. Cette dimension supplémentaire avec ces lois ESS qu'on vote au Congrès pour reconnaître ce nouveau modèle économique.
À l'issue de l'événement, les participantes sont reparties comblées et ont déjà promis d'être présentes lors de la prochaine édition.
Des rencontres vraiment inspirantes, où ça met du baume au cœur aussi pour son parcours personnel, dans ce qui est de se diriger dans l'avancement des projets, des liens qui se créent, des contacts intéressants. Voilà, des belles personnes qui ont envie de faire rayonner la Calédonie dans le Pacifique.
C'est incroyable, moi j'ai adoré par rapport au masterclass, c'était génial, on a appris plein de petites techniques, des choses qu'on peut mettre à profit tous les jours. Puis ça permet de se dévoiler, de voir aussi qui on est, ce qu'on aime, et puis d'être inspiré par des femmes qui sont waouh, qui sont formidables. Et ça donne vraiment une patate, une pêche pour aller encore plus loin.
Ce Nouméa Women's Forum aura également été l'occasion de récompenser les lauréates de l'appel à projet Women in Tech. Lancé par le gouvernement, le projet vise à soutenir l'entrepreneuriat des femmes dans le secteur de la tech. 19 dossiers avaient été présentés et 2 entrepreneuses ont remporté le premier prix, soit 500 000 francs du gouvernement pour soutenir leur projet.
Actualité religieuse avec 2 événements organisés ce week-end. Dans l'extrême nord, à Puebo, les paroissiens de l'église Saint-Ostremoine célèbrent les 150 ans de la construction de l'édifice. Jusqu'à ce dimanche, de nombreuses animations sont programmées, notamment l'exposition sur les traces d'Hippolyte Bonou 150 ans après, réalisée par l'Association des artistes de Puebo. Le comité JMJNC organise à partir de demain au foyer Saint-Léon le 2e rassemblement des JMJistes qui partiront aux Journées mondiales de la jeunesse à Séoul en Corée du Sud. Ce sera en 2027 et donc jusqu'au mardi 11 novembre, plusieurs dizaines de jeunes seront sur place et participeront à de nombreuses activités.
RRB, il est 18h10.
Le festival de cinéma Récif débute aujourd'hui. Les Calédoniens pourront assister à des projections en plein air ou en salle et découvrir des courts et des longs métrages de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Des cinéastes venant de Nouvelle-Zélande et d'Australie seront présents tout au long de ce festival. La soirée d'ouverture est organisée ce soir au Centre culturel Chibaou. Ce sera à 18h. Et le premier long métrage diffusé sera Red, White and Brass, une comédie néo-zélandaise qui sera présentée par l'invité d'honneur et réalisateur Damon Fepuleai.
Je suis très content d'explorer le territoire. Je suis allé sur beaucoup d'îles du Pacifique et je suis toujours autant fasciné par les différences et ressemblances entre chaque endroit. C'est une vraie chance pour moi de pouvoir créer un réseau avec les Calédoniens, de leur montrer le film. Le Récif Festival est, selon moi, une opportunité de montrer les films du Pacifique à un plus large public, car je pense qu'il y a une vraie demande de la part des populations océaniennes de se voir représentées au cinéma, à l'écran. Et il y a aussi de nombreuses opportunités à saisir pour raconter leurs histoires.
Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour Pacific stories to be told.
Pour connaître la programmation du festival, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet recif.nc. Le festival se déroulera jusqu'au 13 décembre prochain. Autre événement sur le territoire, le salon Prestige à l'Amirauté à Nouméa qui a ouvert ses portes ce matin. Plusieurs stands étaient exposés comme avec des stands artistiques, de bijoux, de vêtements, de bougies et bien d'autres encore. Les Calédoniens se sont donc donné rendez-vous cet après-midi pour faire le tour du salon.
Alors je suis venue sur le salon, c'est magique, pas d'autre mot, il fait très beau, les gens sont très sympas, ils sont tous là pour nous accueillir. Il y a plein d'opportunités et de petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année éventuellement, ou des petits cadeaux pour se faire plaisir.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment les photos. Cette position de photo est vraiment très très belle, vraiment des artistes sentent qu'ils aiment leur art et qu'ils se donnent à cœur pour faire découvrir leur art.
Vous pourrez également assister à des concerts et des défilés dans les jardins. Le Salon Prestige est encore ouvert demain à l'Amirauté de 10h à 19h. Voyons maintenant le reste de l'actualité festive de ce week-end. Une action caritative est notamment organisée demain à Géant-Sainte-Marie, Charlotte Coulson.
Depuis les événements de l'an dernier, les Petites Sœurs des Pauvres et leurs bénévoles organisent une quête de produits de première nécessité une fois tous les deux mois. Demain matin, elles seront de 8h à 13h devant le Géant Sainte-Marie.
La table de l'amitié 2025 aura lieu également demain. Ce sera à l'hippodrome Henri Millard de Nouméa.
Une action caritative organisée depuis 18 ans dans le cadre du Téléthon par le Lions Club Deliciosa. Une manifestation conviviale autour d'un pique-nique géant. Plus de 800 personnes participeront à cette table de l'amitié. Les précisions de François Séguran, la trésorière du Lions Club Deliciosa.
Il y aura de l'animation. Chaque année, on essaye un petit peu de varier les genres, on va dire. Mais on a une fidèle animatrice qui s'appelle Vanuela Watt. On ne la présente plus, merveilleuse voix d'ici. Et puis nous avons des associations qui viennent danser, nous avons des Tahitiens, des Mélanésiens. Cette année, on va avoir
une surprise.
On va avoir une surprise qui aussi montrera que ce pays, c'est tout un pays, c'est un pays dans son ensemble, il n'y a pas de différence.
L'objectif de cette table de l'amitié, c'est quoi?
Toujours pareil, aider les enfants, les personnes handicapées, particulièrement les myopathes. Au départ, il faut savoir que le Téléthon qui se passe en France, début décembre, comme il devrait se passer ici, mais on anticipe un peu la chaleur, tout ça, on en tient compte. Qui n'est pas concerné par cela?
La table de l'amitié, c'est demain de 18h à 23h sur l'hippodrome Henri Millard de Lanzvata.
Le dernier rendez-vous de l'année proposé par Pro Events, ce sera pour la bonne cause avec la Stache demain. Départ à 16h30 à Dumbéa.
Il s'agit d'une marche solidaire et festive de 5 km sur un parcours mis en place jusqu'au parc de Coutiot. Elle est ouverte à tous pour soutenir l'association des malades du cancer et plus spécifiquement la lutte contre le cancer de la prostate. Les participants sont invités à se déguisés, avec notamment des concours de moustaches et de déguisements. Un village d'animation sera également proposé à la Halle Castex de Dumbéa. Un rendez-vous en partenariat avec RRB.
Direction les îles Loyauté, 3 événements animent l'IFOU et Marais.
La tribu de Répéné organise et accueille l'édition 2025 du Santal Cup sur le site Aïma. La pirogue traditionnelle est à l'honneur jusqu'au 14 novembre prochain. La tribu de Loingoni propose quant à elle depuis ce matin la fête de la plage. Au programme, durant 3 jours, des activités nautiques, des lieux insolites à visiter, des activités sportives et des jeux de plage en tout genre. Et puis à Marais, la tribu de Rau célèbre jusqu'à dimanche les 20 ans de la fête du Wadjoujou.
Direction l'extrême nord de la Calédonie avec le festival Tchanaton, dansons la nuit, qui anime jusqu'à demain la commune de Wegwa.
Cette édition 2025 a pour thème se remémorer 50 ans de Mélanésia 2000. Au programme, ateliers, forums, expositions et spectacles de résidence. Un rendez-vous pour faire vivre et transmettre la culture ensemble.
Et le marché de Mamie se tiendra ce dimanche de 8h à midi sur la place de la mairie de Farino. Et à Saraméa se tiendra également un marché spécial fête de l'anthurium. C'est de 8h à 15h. Il est 18h passé de 15 minutes. Seconde pause dans ce journal avant d'ouvrir notre agenda sport du week-end.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Virus, bactéries, stop. Depuis 20 ans, le spray assainissant pur essentiel purifie l'air intérieur tout naturellement. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force de sa formule brevetée pour éliminer virus, bactéries et limiter les sources d'épidémie. 21 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. Numéro 1 en pharmacie. Pur essentiel, 20 ans d'efficacité à l'état pur. En ce moment, 20 séjours exceptionnels à gagner à l'achat d'un spray assainissant 20 ans. Date et règlement sur puressentiel.com.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
C'est la fête du volley en cette fin de semaine sur le territoire. Pour ses 60 ans, la Ligue calédonienne organise dimanche les finales territoriales hommes et dames. Un week-end également marqué par la pose d'une plaque commémorative. C'était cet après-midi, Léo Fichou.
Oui, une plaque en hommage à Jacques Kékéné Wayalé Wawanabu posée sur le mur de la salle omnisport de Lansvata. Originaire de la tribu de Padawa, Maré, il a notamment remporté 3 médailles d'or aux Jeux du Pacifique. C'était en 1969, 71 et 75. Il a ensuite présidé la Ligue de volley jusqu'à son décès en 2004, à l'âge de 55 ans. La plaque à son nom a été dévoilée peu après 15 heures. Un moment d'hommage qui a rassemblé ses proches, ses anciens coéquipiers et toute la nouvelle génération qui pratique le volley en Nouvelle-Calédonie. Moïse Kalemou est le président, justement, de la Ligue calédonienne.
C'est très beau parce que voilà, on a réuni toute la famille du volleyball calédonien, mais aussi toutes les instances qui composent le pays avec tout le mouvement du sport. Donc oui, une grande satisfaction pour ces débuts de week-end et puis de cette cérémonie d'ouverture sur la plaque commémorative pour le vieux Kéké Wananabu. Un moment émouvant, hommage à tous ces anciens qui ont œuvré pour le volleyball calédonien, qui ont œuvré pour cette passion-là.
Vous l'aurez compris, la salle omnisport de Lansvata s'appelle désormais salle Jacques Kékéné Wayalé Wawanabu. Et après cette cérémonie, le coup d'envoi des premières rencontres hommes et dames ont été donnés. Des matchs qui vont se jouer tout le week-end jusqu'au final prévu dimanche à la mi-journée. 13h pour les dames, 15h pour les hommes. Demain, une journée de découverte avec de nombreuses animations est organisée autour de cette salle omnisport.
Merci Léo Fichou. Ouvrons à présent l'agenda sport du week-end en métropole et dans le monde. On va commencer Lionel Sabot avec du football et la 12e journée du championnat de France de Ligue 1.
Les matchs se joueront demain, dimanche et lundi matin pour nous. Demain, en ouverture de cette journée, le Paris FC, qui reste sur une belle victoire il y a une semaine sur la pelouse de Monaco, accueillera Rennes. Ce sera au stade Jean Bouin. Dimanche matin, nous suivrons Marseille-Brest, Le Havre-Nantes et Monaco-Lens. Cette journée s'achèvera lundi matin pour nous avec Lorient-Toulouse, Metz-Nice, Angers-Auxerre, Strasbourg-Lille et le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Du rugby également, avec un beau week-end en perspective pour les fans de l'Ovalie. Dimanche matin, à 7h10, l'équipe de France jouera son premier match de la tournée dite d'automne des équipes de l'hémisphère sud. Au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié rencontreront les doubles champions du monde en titre sud-africain. Parmi les autres matchs internationaux à suivre ce week-end, Écosse-Nouvelle-Zélande. À suivre également ce week-end, un match en retard de la 3e journée du top 14, le championnat de France élite, rencontre entre Toulon et La Rochelle, match qui avait été reporté il y a quelques semaines à cause d'un orage violent au-dessus du stade Mayol. Au chapitre sport mécanique, une triple actualité ce week-end avec de la Formule 1, de la moto et du rallye. En Formule 1, à suivre la 21e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries se retrouveront à Sao Paulo pour le Grand Prix du Brésil. Il s'agira d'un week-end au format sprint. La seule séance d'essai libre se courra la nuit prochaine à partir d'1h30. La qualification de la course sprint sera à suivre demain matin à partir de 5h30. Une course sprint qui sera disputée dans la nuit de samedi à dimanche à partir d'1h du matin. La course principale principale de ce Grand Prix du Brésil se courra lundi à 4h, heure de Nouméa. Sur 4 euros toujours à suivre ce week-end, la 13e manche du championnat du monde des rallyes, c'est au Japon. Enfin, sur deux roues, à suivre la 21e manche du championnat du monde de MotoGP, c'est l'avant-dernière course de la saison. Pilotes et écuries se retrouvent au Portugal.
Jetons à présent avec vous, Lionel, un coup d'œil au programme sport du week-end, mais en Calédonie.
Et les amateurs de basket ont rendez-vous à partir de demain sur les quais Ferry à Nouméa pour un grand tournoi de basket 3 contre 3. Plus de 100 matchs seront au programme jusqu'au mardi 11 novembre. Les quais 3x3, c'est le nom de ce grand tournoi, alliera pendant 4 jours compétition sportive et culture urbaine avec de très nombreuses animations. Du sport et des animations également à partir de demain à Poindimier pour la fête du cricket 2025. Les matchs en senior mixte et jeune mixte se dérouleront demain dimanche et lundi sur les terrains de la tribu de Baïs à Poindimier. Notez également que c'est ce week-end que la Ligue calédonienne de volleyball fêtera ses 60 ans. À noter également sur vos agendas pour ce long week-end de 4 jours les demi-finales du championnat de Calédonie de futsal et un tournoi inter-entreprise de tennis de table, tournoi qui se déroulera demain à la salle Jean Noyon de Motorpool. Dimanche enfin, et pour bien terminer l'année, Challenge Organisation en partenariat avec Itinéraire Province Nord propose un trail à Poindimier en immersion à la tribu de Saint-Thomas. Trois distances au programme, 5 km 500, 12 km et 20 km pour les plus courageux. Les départs se feront dimanche toutes les demi-heures à partir de 6h30.
Merci Lionel Sabot. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
La vigilance jaune pour fortes pluies et orages reste en vigueur du nord de la côte est entre Ponérouin et Ouégoua ainsi que sur Ouvéa pour un risque d'averses orageuses qui se maintiendra en début de nuit. Ce soir, de bonnes averses persisteront sur le nord, surtout sur le nord-est, avant que les éclaircies ne reprennent le dessus. Au Loyauté, le temps s'améliorera également, même si quelques averses resteront possibles sur le nord de l'archipel. Ailleurs, les étoiles feront leur retour rapidement. La seconde partie de nuit s'annonce dégagée. Le vent restera faible et variable sur l'ensemble du territoire. Les températures minimales évolueront peu, comprises entre 19 et 23 degrés. Demain matin, la journée débutera sous un beau soleil et ça fait du bien, avec tout au plus quelques ondées isolées sur la chaîne sud ou au Loyauté. Le vent restera faible, dominé par le régime des brises. Et côté mer, pour nos amis les pêcheurs, elle sera haute ce soir vers 20h53, avant de redescendre dans la nuit autour de 3h15, puis de remonter samedi matin avec un nouveau pic attendu vers 9h55.
Et merci beaucoup Pierre, il est 18h23, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.